Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les syndicats pénitentiaires sous le choc après l'opération Commando de Tarascon.
Un détenu a réussi à se faire enlever au nez et à la barbe des surveillants juste devant le palais de justice. Il demeure introuvable ce matin. Nous reviendrons sur son lourd, très lourd casier judiciaire. Dans l'actualité également, le soulagement pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort. L'État laisse encore une chance aux repreneurs. Dis-moi où tu vis, je te dirai si tu fumes. Santé publique France dévoile sa carte du tabagisme. C'est en région parisienne que l'on fume le moins. Et puis ce n'est pas le pied pour le PSG, privé pour longtemps de Neymar, au moins 3 mois, nous dira Philippe Sanfourche.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez ce matin avec François de Rugy.
Antinucléaire un jour, antinucléaire pas toujours.
De météo d'ici 7h.
6 degrés cet après-midi à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, sous un ciel couvert et de la pluie, mais la neige fera son apparition la nuit prochaine. Département placé en vigilance orange pour cela.
RTL Matin.
Après l'évasion d'un détenu à Tarascon, les syndicats pénitentiaires appellent à manifester.
Le détenu emprisonné à Béziers a pu s'enfuir grâce à une spectaculaire opération commando hier matin devant le palais de justice de Tarascon. Il était escorté par 3 surveillants qui n'ont rien pu faire lorsque des hommes armés et cagoulés ont attaqué leur véhicule. Tout avait été minutieusement préparé par cette figure du grand banditisme, Étienne Baudu.
Pour Patrick Desjardins, le procureur de Tarascon, à 27 ans, Lofty Boussouak était en pleine ascension dans le milieu du banditisme.
Quelqu'un qui est capable effectivement de mobiliser une équipe dont un des membres est équipé d'un fusil d'assaut, on est effectivement sur un profil dans le haut du spectre de la délinquance.
Avec 14 mentions sur son casier judiciaire et 4 récentes mises en examen pour vol avec arme, vol aggravé et en bande organisée, le Nîmois était en train de se faire un nom entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Alors au centre pénitentiaire de Béziers, le malfaiteur n'était pas considéré comme dangereux et pour son extraction hier, une escorte de niveau 2 sur une échelle qui en compte 4 avait été prévue, c'est-à-dire avec 3 agents armés. Mais ce n'était pas suffisant pour Jesse Zagari du syndicat FO pénitentiaire.
En sachant que ce détenu est déjà pour association de malfaiteurs, qu'il est connu dans le banditisme, l'escorte 2 aurait pu passer escorte 3 et avoir une escorte supplémentaire, voire une escorte armée de la police qui aurait suivi cet équipage d'extraction. S'il y avait eu plus d'hommes armés pour assurer la sécurité de l'extraction, il n'y aurait pas eu de guet-apens comme celui-ci.
Le syndicaliste qui estime que pour des présentations devant un juge, le système de la visioconférence pourrait être une alternative qui éviterait des extractions coûteuses et parfois donc dangereuses.
Étienne Baudu. RTL 6h32, la décision est tombée tard hier soir pour Ford et elle redonne de l'espoir aux 850 salariés du site de Blanquefort en Gironde.
Le repreneur qui avait été écarté par le groupe américain n'a pas dit son dernier mot. L'administration lui laisse 15 jours pour étoffer son projet, Philippe Demaria.
Oui, c'est un peu d'espoir pour les Ford de Blanquefort. Cette décision de la directe bloque le plan social, repousse l'échéance de quelques semaines. Elle est dans la droite ligne de la position du gouvernement. Mettre des bâtons dans les roues du groupe américain. Sauver au moins 400 emplois sur 870, c'est un minimum en cette période où politiquement, il ne fait pas bon fermer des usines. Alors, un répit, pourquoi faire? L'intersyndicale souhaite convaincre le groupe Punch de représenter une offre de reprise en fournissant à Ford des lettres d'intention de ses clients assurant une charge de travail pour l'usine. Alors, repousser ce plan social ne fait pas que des heureux sur le site, les pré-retraités notamment qui souhaitent partir au plus vite avec ce PSE, mais la majorité des ouvriers veut conserver l'outil industriel inauguré à Blanquefort en 1973.
Philippe Demaria, retenez-moi ou je fais un malheur. C'est un peu l'attitude du patronat qui a décidé de claquer la porte des négociations sur l'assurance chômage. Le MEDEF, la CPME et l'UDP ne veulent pas entendre parler de bonus-malus sur les contrats courts. C'est une demande d'Emmanuel Macron. Le principe, il est simple, hein. Ce bonus-malus imposerait une sanction financière aux entreprises qui abusent le plus des contrats précaires et il permettrait au contraire aux entreprises les plus vertueuses de payer moins de cotisations. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, regrette évidemment l'attitude du patronat.
Faute de l'une des deux parties, la négociation tombe dans une voie sans issue. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'espère qu'on pourra revenir à la raison, on va voir. Il ne faut pas oublier que la loi travail et les ordonnances ont très largement flexibilisé le CDI. Donc c'est absolument incompréhensible que les employeurs refusent de travailler sur la question des contrats courts parce qu'ils ont déjà obtenu beaucoup sur le CDI. Et malheureusement, je crains que ce ne soit ce qu'attendait le gouvernement pour reprendre la main sur l'assurance chômage. Faire encore et encore des économies sur le dos des chômeurs, ça n'est pas acceptable pour Force Ouvrière.
Propos recueillis par Éric Vanier. 85% de biocarburant, 15% d'essence, c'est la composition du super éthanol dont les ventes atteignent des records. C'est une info RTL, une hausse de 55% l'an dernier. Le super éthanol est deux fois moins cher que l'essence. Il faut installer un boîtier spécial sur son véhicule qui est payant entre 700 et 1000 euros, mais vite rentabilisé. C'est aujourd'hui que Laurent Wauquiez officialise la candidature comme tête de liste européenne du jeune prof de philo conservateur François François-Xavier Bellamy, 33 ans, sous bonne escorte puisqu'il sera encadré par des profils plus consensuels. Le choix de François-Xavier Bellamy, ouvertement opposé à l'IVG, a fait jaser au sein de LR. Et puis la liste des gilets jaunes aux européennes plombée par un deuxième départ après celui du directeur de campagne. Cette fois, c'est un ancien soutien d'Emmanuel Macron, Marc Doyer, qui quitte le navire. Il aurait reçu des menaces de mort.
La suite de votre journal à 6h37, c'est en Provence, Alpes-Côte d'Azur qu'on fume le plus.
Santé publique France publie aujourd'hui sa carte du tabagisme. Un peu plus de 12 millions de personnes fument en France. C'est 1 million de moins qu'il y a un an. La hausse des prix et les campagnes anti-tabac ont visiblement eu leur petit effet. Mais ce qui frappe en regardant cette carte, bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Ce qui frappe, c'est que les fumeurs sont très inégalement répartis sur le territoire.
Ah oui, vous l'avez dit, c'est en région PACA que l'on fume le plus. 32,2% de fumeurs quotidiens, c'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Et puis, autre région en zone rouge, les Hauts-de-France, l'Occitanie, le Grand Est, là c'est un peu plus de 30% des adultes qui fument des cigarettes tous les jours. À l'inverse, la bonne élève du classement, c'est l'Île-de-France, 21,3% de fumeurs quotidiens, c'est là qu'on fume le moins. Et puis le Pays de la Loire également est bien classé avec seulement 23% de fumeurs. Alors, comment expliquer ces disparités? D'abord, les niveaux d'études rentrent en ligne de compte. Plus les diplômes et les revenus sont élevés, moins on fume. Et puis selon les régions, les Français sont plus ou moins réceptifs aux campagnes de sensibilisation. Les images choquent que vous voyez sur les paquets. Et ces disparités, on les retrouve également chez les jeunes. Je vous donne juste un exemple. Dans les Hauts-de-France, presque 7% des adolescents mineurs fument plus de 10 cigarettes par jour. C'est deux fois plus qu'en Île-de-France.
Merci beaucoup Marie Mollet. Parmi les 6 personnes décédées depuis le début du mois dans l'EHPAD de la chapelle Saint-Mémin près d'Orléans, 6 personnes dont 2 soignants, seule une a succombé à la grippe. C'est en tout cas le seul cas avéré pour le moment d'après l'Agence régionale de santé. Il s'agit d'une résidente de 85 ans, elle n'était pas vaccinée, elle aurait été prise en charge trop tard pour son fils qui a décidé de porter plainte. À l'étranger, le ton monte entre les États-Unis et la Chine. Les Américains ont officiellement inculpé cette nuit la dirigeante du géant de la téléphonie Huawei pour vol de technologie et violation de sanctions contre l'Iran, notamment. Pékin dénonce des manipulations politiques.
RTL 6h39, Neymar au repos et pour longtemps.
Le PSG commence à se faire à l'idée qu'il faudra finir la saison sans lui. Philippe Sanfourche est reparti pour plusieurs mois d'absence à cause de ses douleurs aux pieds.
Opération ou non, c'est une absence d'au moins 3 mois qui se profile pour Neymar. Et donc la certitude de rater les 2 matchs face à Manchester United en 8e de finale de Ligue des Champions, mais également d'hypothétiques quarts de finale. Même avec un simple protocole de soins à base d'injection, évitant l'intervention chirurgicale, le retour sur les terrains du Brésilien se ferait dans le meilleur des cas en avril, sans aucune garantie de résultat et avec la nécessaire période de réathlétisation pour retrouver le très haut niveau. C'est donc à une fin de saison sans Neymar que se prépare le PSG. Avec 20 buts et 9 passes décisives au compteur en à peine 23 matchs, le Brésilien avait redonné du souffle à l'équipe capable de débloquer les matchs les plus cadenassés. Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, repart donc d'une feuille quasi blanche pour tenter de remporter la Ligue des Champions. Objectif numéro 1, toujours affiché par le PSG.
Philippe Sanfourche pour RTL et on reviendra sur cette blessure, sur ses conséquences avec Bichente Lizarazu, notre consultant, tout à l'heure à 7h20 sur RTL.
Coup d'envoi ce soir des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Guingamp reçoit Monaco. Monaco qui retrouve Leonardo Jardim, revenu au poste d'entraîneur après le limogeage de Thierry Henry. Demain, Strasbourg reçoit Bordeaux.
Allez, l'histoire du jour.
Le Bellâtre séduisait ses victimes dans le noir. Bellâtre, c'est vite dit. S'il choisissait l'obscurité, ce n'était pas juste par goût du mystère. Un Niçois de 68 ans est renvoyé devant le tribunal Jean-Alphonse Richard pour viol par surprise.
Ben oui, si ce fameux Anthony Laroche, le surnom qu'il s'était choisi, a pu duper toutes ses femmes, c'est bien parce qu'il s'était fabriqué le portrait de l'amant parfait, un homme séduisant, bien éduqué, proposant un scénario érotique emprunté au best-seller 50 nuances de Grey. 342 femmes intéressées sur les réseaux sociaux par le profil de ce mannequin vivant sur la Côte d'Azur. 24 vont répondre à ce bel inconnu qui les invite à passer un moment chez lui, à condition que ce soit dans l'obscurité, les yeux bandés, pour ajouter une touche de mystère. La suite est beaucoup moins glamour. Une fois la lumière rallumée, les femmes vont découvrir un homme de 68 ans, voûté, le visage ridé, un retraité bedonnant et essoufflé. Pour la justice, une telle mise en scène équivaut bien à un viol par surprise, car sans ce stratagème, aucune des plaignantes n'aurait accepté la moindre relation avec ce faux Anthony Laroche, sans aucune ressemblance avec Christian Grey, le beau gosse milliardaire de 50 nuances.
Jean-Alphonse Richard.